Bonjour, bienvenue à cette troisième séance d'exercice des structures isostatiques. Nous allons travailler sur le schéma qui est représenté ici. Il s'agit donc d'une structure plane dont on va compter le nombre de degrés de blocage et de degrés de liberté d'abord pour vérifier ensuite par l'absence de mouvement qu'il s'agit bien d'une structure isostatique et pouvoir par conséquent calculer les diagrammes du moment fléchissant, de l'effort tranchant et de l'effort normal. Donc, on va commencer avec le comptage de degrés de liberté et de degrés de blocage. Nous avons au niveau du comptage donc une première poutre qui est la poutre qui va de A à B, un deuxième corps rigide qui est l'ensemble des deux poutres AL et LH encastrées au point L, un troisième qui est ici, un quatrième qui est la poutre BH et puis un cinquième qui fait tout le tour, donc de C à D, à E, à G, à H. La poutre est en continu au travers de chacun de ces points. Donc voilà, nous avons cinq poutres. Du coup, le nombre de degrés de liberté total, c'est 3P égale 3 fois 5, et donc 15. Nous allons ensuite compter les degrés de blocage antérieurs. On note qu'on a une rotule double, triple, pardon, ici, et une autre de rotule triple ici. Donc, une rotule de ce type engendre 2 degrés de blocage par chaque couple de poutres attachées. Donc, on compte 3 poutres, moins 1, ça fait 2, multiplié par 2, ça fait 4. Donc, on a 4 degrés de blocage introduits par la rotule B, 4 autres introduits par la rotule H, et puis 2 dans chacune des rotules A et C. Donc, ça fait 2 plus 4, 6, plus 2, 8, plus 4 encore, 12. Donc, le nombre de degrés de blocage antérieur est de 12. Et puis finalement, au niveau du nombre de degrés de blocage extérieur, nous avons un blocage introduit par l'appui simple en D et deux par l'appui double en E. Et donc, nous avons 3 degrés de blocage extérieur. Et la différence 3P moins I moins E est égale à 0, ce qui fait de notre système un candidat pour être considéré une structure isostatique, pour être une structure isostatique. Afin de vérifier l'isostaticité, il nous reste à contrôler qu'il n'y a pas de mouvement possible. Alors nous allons commencer à regarder les corps numéro 5. Ils se retrouvent dans une condition de appui simple plus appui double. On constate que l'axe de l'appui simple ne passe pas par le centre de l'appui double. Donc le corps numéro 5 n'a pas de mouvement possible. On peut indiquer le fait que le centre de rotation du corps numéro 5 ne peut pas exister. Donc ce corps peut être considéré comme un corps rigide. Nous avons du coup au point C le centre de rotation absolu du corps numéro 3, je vais indiquer par C3, et au point H le centre de rotation absolu au foie du corps numéro 2 et du corps numéro 4. Nous avons ensuite le centre de rotation relative entre le corps 1 et le corps 2 qui se trouve ici, et le centre de rotation relative à la fois entre les corps 1 et 3, entre les corps 1 et 4, et entre les corps 4 et 3. Donc voilà l'ensemble de ces centres de rotation, et on va démontrer qu'il n'est pas possible d'avoir des mouvements de ces corps parce que ces centres de rotation ne sont pas 3 à 3 alignés. On peut donc déjà constater que le centre de rotation du corps numéro 3 est ici, les centres relatifs 1, 3, pardon, les centres relatifs 4, 3 est ici, et le centre du corps 4 est là. Donc ces trois points n'étant pas alignés, il s'ensuit qu'il n'y a pas de mouvement relatif possible entre le corps 3 et le corps 4. Donc puisqu'il n'y a pas de mouvement relatif possible, c'est que c'est 3, 4 ne peut pas exister. Et par ailleurs, puisque ces 3 et ces 4 qui sont donc censés être en même point sont évidemment distincts, il n'y a pas de mouvement possible ni pour le corps 3 ni pour le corps 4. Donc, seulement ces deux corps sont solidaires entre eux, mais en plus n'ont pas de mouvement possible. Il s'ensuit encore une fois que le corps numéro 1, il doit avoir à la fois son centre de rotation absolu ici. Donc ça, c'est le centre de rotation absolu du corps numéro 3, qui évidemment coïncide avec C1,3, qui est un point fixe, et qui coïncide Il coïncide avec C1-4. Et puis nous avons ici le corps numéro 4, dont le centre de rotation absolue n'existe pas. On a vérifié qu'il ne peut pas exister parce que pour le mouvement relatif au corps 3. Et donc ceci est à la fois le centre de rotation relatif 1-4 qui devient un centre de rotation absolue, relatif 1-3 qui est un centre de rotation absolue, et donc centre de rotation absolue du corps numéro 1. Nous avons alors le corps numéro 1 qui est son centre de rotation absolue, le corps numéro 2 qui a son centre de rotation absolue ici, et le centre de rotation relatif qui est là. Les trois ne sont pas alignés, et donc il n'y a aucun mouvement possible, ni pour le corps 1, ni pour le corps 2. Donc cette analyse démontre que les mouvements sont impossibles, donc mouvement donc, en joignant ces deux informations, on a déduit que la structure est isostatique. Et ce qui nous permet de procéder au calcul de la structure par les méthodes connues des structures isostatiques. Pour faire ce calcul, je vais effacer l'information sur les centres de rotation. Et je vais passer à tracer les diagrammes du moment sur cette structure. Tout d'abord, je peux identifier première vue, l'allure de ce diagramme dans les différentes parties de la structure. Le diagramme sera, il aura une allure linéaire dans tous les endroits où on n'a pas de charge distribuée appliquée et une allure parabolique où la charge distribuée est effectivement appliquée. Donc ici, je peux imaginer que le diagramme aura une allure de ce type, c'est-à-dire il doit passer entre 0 et 0 en ayant une allure linéaire, donc il y a nécessairement 0 partout. La même chose se produit ici, là. Ensuite, pour ce qui est de la poutre, de la zone AL de ce corps, donc de la poutre AL, je sais que le diagramme devra être parabolique, il doit passer par là. Je dessine donc une parabole, éventuellement. Le diagramme pourra ne pas être 0 au point L. S'il n'est pas 0 au point L, il aura une allure linéaire et non nulle sous la poutre LH, mais il devra forcément arriver en 0 à un H. Ensuite, pour ce qui concerne du reste de la structure, je sais qu'ici, donc, le diagramme doit passer par 0. Il doit varier linéairement sous cette poutre, donc il pourra éventuellement avoir une allure de ce type. Également, il doit être linéaire sous cette poutre et n'est pas nécessairement 0 au point E. Et la même chose sera valable pour ce qui est de la partie HG, dans laquelle je peux avoir un diagramme linéaire. Et pour la partie qui reste, qui est GE. Et je ne connais pas la valeur ici, je ne connais pas la valeur qui est là. La valeur qui est là et la valeur qui est là. Donc, toutes ces valeurs peuvent être évaluées par un calcul, mais en fait, avant de procéder au calcul, on peut, ou plutôt, disons, on peut faire un calcul directement par raisonnement sur la structure plutôt que passer directement en calcul analytique. La première chose qu'on peut constater, c'est que si j'imagine l'équilibre en translation horizontale de cette partie du corps, il est nécessaire que les faux tranchants sur la poutre AB et les faux tranchants sur la poutre LH soit égal et opposé, parce qu'il n'y a pas d'autre force horizontale appliquée, ce qui oblige la pente du diagramme dans la zone LH à être égale à la pente dans la zone AB. Je peux donc corriger ceci. Donc dans la zone AB, le diagramme est 0. Dans la zone LH aussi, et ici, j'ai une parabole. Ceci est déjà un tracé définitif du diagramme pour ce qui concerne de cette partie de la structure avec une valeur maximale qui est QL carré sur 8. Telle est l'allure de la parabole sur une portée de L et pour une charge distribuée de Q. L'effort normal sur les côtés AB et sur les côtés LH est le même, vu la symétrie du diagramme et du chargement. On a donc ici un effort normal de compression qui vaut QL sur 2. Et là, nous avons la même chose, un effort normal de compression qui vaut QL sur 2. Puisque aucun effort tranchant ne peut se transmettre sur la poutre BH, au vu que le diagramme du moment est 0 partout, et donc ses dérivés est aussi 0, au travers de la rotule B, on transmet le même effort sur la poutre BC. Donc ceci, on avait déjà noté, est un diagramme du moment qui est 0 partout. Nous avons donc au niveau du point C et au niveau du point H la transmission du même effort QL sur 2, ce qui signifie que la pente de ce diagramme et la pente de ce diagramme doivent nécessairement être les mêmes. Je vais les redessiner avec la même pente. Puisque la valeur de l'effort tranchant est QL sur 2, et c'est donc telle est la pente du diagramme, à une distance de L, je me retrouve ici avec une valeur du moment qui vaut QL carré sur 2. Ce n'est malheureusement pas la même échelle que nous avons dessinée là-haut, je vais donc corriger en dessinant ceci un peu plus petit pour que ce soit représenté à la même échelle. Donc, nous avons ici ces deux parties du diagramme qui sont définitives. La valeur finale ici est QL carré sur 2, qui est la même. Et ce que je peux constater, c'est que pour la même raison que précédemment, où l'effort tranchant devait être le même sur la poutre AB et sur la poutre LH pour des raisons d'équilibre en translation horizontale, de la même manière, l'équilibre en translation horizontale de la partie des structures qui se trouve supérieurement à la ligne d'ici, entre BC et GE, fait que le diagramme du moment ici doit être constant. L'effort tranchant doit être en effet nul tant sur BC que sur GE. Je sais donc ici que ceci est le diagramme du moment et que la valeur AE que j'ignorais tout à l'heure est bien de QL carré sur 2. Donc il reste ici simplement à tracer de manière définitive cette partie du diagramme. Qui passera par 0 à la moitié de la poutre, étant que ces deux valeurs extrêmes sont les mêmes. Voilà les diagrammes du moment tracés pour cette structure, sans avoir fait aucun autre calcul que ceux qui sont induits directement par les raisonnements précédents et qui sont aussi justes que d'autres raisonnements qu'on aurait pu faire, évidemment, sur la même structure. Une fois que nous avons tracé les diagrammes du moment, nous pouvons procéder à tracer les diagrammes de l'effort tranchant et les diagrammes de l'effort normal. Donc, une fois que nous avons obtenu les diagrammes du moment fléchissant que j'ai redessiné ici, je peux tracer ici les diagrammes de l'effort tranchant. Donc, pour tracer les diagrammes de l'effort tranchant, je dois juste faire la dérivée du diagramme du moment qui est ici. Donc, dans la partie AL, nous avons un diagramme parabolique. Au début, la parabole passe de 0 à une valeur positive maximale et après elle redescend à 0. Nous avons donc un effort tranchant qui est positif ici, qui est 0 au milieu et qui est négatif là. Sa valeur maximale est QL sur 2 dans les deux extrémités et les signes de cet effort, c'est les signes qui est donné par la rotation du diagramme du moment. Donc on voit que ici, c'est un signe conventionnellement négatif et ici, c'est un signe conventionnellement positif. Concernant la partie AB, BC, BH, on voit que le moment fléchissant est constant, il est d'ailleurs égal à 0. Du coup, dans toutes ces parties, l'effort tranchant est simplement nul. Donc, je peux dessiner une ligne pour indiquer que l'effort est zéro. Et également sur la partie EG, le diagramme du moment est constant et donc l'effort tranchant est également nul. Donc dans ces parties-là, l'effort tranchant est marqué égal à zéro. Là aussi, je peux marquer effort tranchant égal à zéro. Ensuite, nous avons la dérivée de la fonction linéaire qui est là. Donc la valeur max est QL carré sur 2 et elle se présente à distance de L. Nous avons donc une constante qui est une constante négative qui vaut QL sur 2. Donc la même hauteur que nous avons là. Le signe de cet effort est donné ici par la rotation du diagramme du moment. Donc on vient de dire que c'est une constante négative, mais on peut l'observer aussi en regardant la direction des flèches, qui est la direction concorde à la rotation du diagramme qu'on constate ici, dans ce sens-là. Pour la partie DE, l'effort tranchant, il a valeur double. Je rappelle que le point de croisement, même si c'est mal dessiné, a lieu au milieu. Donc l'effort tranchant a valeur double et c'est une valeur positive. Donc le dessiner là. Et puis pour la partie HG, on avait déjà observé que l'effort tranchant est le même que dans la partie CD, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a tracé le diagramme du moment. Voilà donc le diagramme de l'effort tranchant dans cette partie. Et ça vaut donc QL sur 2. Voici donc le diagramme de l'effort tranchant qui est dessiné en bleu. Nous pouvons tracer là-dessus les diagrammes de l'effort normal. Les deux ne vont probablement pas interférer graphiquement trop, donc ça sera, j'espère, lisible à la fin. On va en tout cas le faire. Alors tout d'abord, nous avons déjà constaté que sur la partie AB, et il suffit de regarder l'équilibre du nœud A, on constate que je fais ici un petit schéma pour représenter cet équilibre. Ça, c'est la rotule au point A. Nous avons à droite un effort tranchant qui descend vers les bas et dont la valeur est QL sur 2. Il faut donc que l'effort normal qui équilibre ici en bas est la même valeur QL sur 2 et qui soit dirigée dans le sens de pousser vers le nœud A. Il s'agit donc d'un effort normal de compression, comme on avait d'ailleurs anticipé. Voilà, sa valeur est QL sur 2. Je vais le tracer, donc c'est la même échelle que là. Et cette situation d'équilibre se produit par ailleurs aussi au nœud B, et donc toute la branche ABC va avoir le même effort normal. Au niveau de l'équilibre du nœud B, on constate que nous avons les deux efforts normaux de compression qui se font mutuellement équilibrés et aucun effort tranchant en jeu, comme c'est indiqué dans le diagramme bleu qui est zéro partout sous BH. Au niveau du nœud C, nous avons la situation opposée que sur le nœud A, dans laquelle on voit arriver l'effort normal QL sur 2 en compression et on voit l'effort tranchant le reprendre vers le haut à droite, comme c'est indiqué ici. Il n'y a pas d'effort normal sous la barre BH, aussi bien que sous la AL et que sous la CD, ce qui est impliqué, encore une fois, dans ce diagramme, par le fait qu'aucun effort tranchant n'existe sous la barre BC, donc pas d'effort normal sous CD, pas d'effort tranchant sur BC et AB, et donc pas d'effort normal sous BH, et finalement, pas d'effort tranchant sur AB, ce qui implique pas d'effort normal sur AL. Donc les diagrammes des efforts normaux dans ces barres sont simplement zéro partout. Et d'ailleurs, ce zéro continue sur la barre DB, DE, pardon, parce que aucune force horizontale n'intervient en D pour pouvoir éventuellement générer un effort normal sur la poutre DE. Sur la poutre LH, nous avons une situation analogue que celle qui s'est produite sur la poutre AB, donc on peut représenter les nœuds L, dans lesquels nous avons un effort tranchant QL sur 2 et un effort normal QL sur 2 qui vient le reprendre. Et donc nous avons ici une situation identique à celle que nous avons à gauche avec un effort normal uniforme qui est de type compression et dont la valeur est QL sur 2. Cet effort normal de compression d'ailleurs est un équilibre en EH avec l'effort tranchant qui se trouve à droite, qui vaut QL sur 2, et un effort tranchant nul qui se trouve à gauche sur la poutre BH comme déjà prévu. Donc l'équilibre des transactions d'une H est respecté également. Et par ailleurs, puisqu'aucune force horizontale intervient au point H, venant de l'effort tranchant sur LH ou venant de l'effort normal sur BH, il est vrai aussi que l'effort normal est nul sur HG. Donc il reste à calculer l'effort normal sur la poutre GE. Cet effort normal, il est généré par l'équilibre. Il doit être un équilibre avec l'effort tranchant QL, donc l'effort tranchant QL qui est dirigé comme ça, donc QL sur 2, je voulais dire. Et par l'équilibre, nous avons ici un effort normal QL sur 2, qui est donc un effort normal de compression. On va le dessiner comme celui-ci. Voilà, le diagramme noir représente l'effort normal. Nous pouvons maintenant procéder au calcul des réactions. En tenant compte, par exemple, de l'équilibre en translation de points, du point D notamment et du point E. Donc, pour ce qui est du point D, nous pouvons considérer les segments de poutre qui est porté par l'appui simple. Donc, à gauche, nous avons l'effort tranchant qui vaut QL sur 2. Et à droite, nous avons l'effort tranchant qui vaut QL. Nous avons donc une réaction qui vaut 3,5 QL. Et ici, nous pouvons considérer la même chose. Nous avons la poutre à gauche, sur laquelle seulement un effort tranchant est présent, qui est un effort tranchant qui vaut QL dans ce sens, et la poutre en haut, dans laquelle un effort normal est présent, dont la valeur est QL sur 2. Nous allons donc avoir une réaction, donc je dessine l'appui, et donc nous allons avoir une réaction vers le bas qui va équilibrer ces deux forces-là et qui est donc QL sur 2. Nous pouvons constater l'équilibre de translation globale, donc la force Q distribuée qui agit sur la longueur L donne une force verticale totale descendante qui vaut QL, et les forces ascendantes dans les appuis valent 3,5 QL moins QL sur 2, donc effectivement QL aussi. On a donc l'équilibre en translation verticale qui est respecté. Et par construction, nous avons bien sûr respecté aussi l'équilibre en translation horizontale, c'est-à-dire il n'y a pas de force horizontale en jeu partout sur la structure, donc de manière triviale, l'équilibre en translation horizontale est respecté. Et il pourrait rester une dernière vérification à faire qui serait l'équilibre en rotation. Par exemple, on peut prendre le point D comme centre de rotation. On aura alors le moment de la force QL qui vaut QL carré sur 2, donc la force Q sous la longueur L avec un bras levier de L sur 2, donc QL carré sur 2. Et de l'autre côté, nous avons la force QL sur 2 avec un bras levier de L, et donc QL carré sur 2 dans l'autre sens. Cette force tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, génère un moment qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour du point D, et celle-ci génère un moment qui tourne dans le sens opposé. On a donc l'équilibre. La structure est donc finalement entièrement calculée. Merci.